Hot Boy. Hello, this is the artist formerly known as Christ from the Guided by Voices, and you're listening to CKUT 90.3 FM, listener-powered community radio. Don't forget to check out the new Circus Devils album.
You're listening to CKUT 90.3 FM.
This is the Amanda Galas. You are listening to CKUT 90.3 FM.
Ici Frédéric Mabriaco. Je vous présente aujourd'hui Lecture importante. Et je citerai cette émission à tous les camarades du Parti communiste et de l'International socialiste, morts au combat dans la lutte pour l'émancipation du prolétariat, dans la lutte des masses, contre le fascisme, contre le nazisme, dans la guerre espagnole, contre Franco, contre Mussolini, contre Hitler, contre les Russes blancs, contre Chiang Kai-shek, contre l'envahisseur japonais. Allons donc avec un peu de Beethoven. Numéro 16, suivi de Highlander Lament, suivi de Oh Sweet Were the Hours, opus 108 numéro 3, suivi de The Miller of Bee, numéro 157 numéro 5, suivi de Farewell Bliss and Farewell Nancy, numéro 20, suivi de O Sanctissima, numéro 4, suivi de O Add My Fat Band Join What Time, Edith Matisse, Dietrich Fischer Diesco, Alexander Guillaume, Rias Chamber Chorus, Carl Engel, Piano Andrea Van et George Dandauer. Par la Deutsches Grammophon, sélection Folk, Song and Aria.
Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, c'est Fio, qu'on se le dise, tout au fond des ports.
Il naviguait en mer pénale, sans avoir jamais viré de bord, mais jamais viré de bord. Il s'appelait les copains d'abord, copains de Franco de port. Ce n'étaient pas des enfants de solo. Le livre d'aujourd'hui est un livre de l'italien Umberto Eco, un petit pamphlet nommé Reconnaître le fascisme. avait comme avait comme résumé un petit comment dire, une petite déclaration d'Umberto Eco. Je crois possible d'établir une liste de caractéristiques typiques de ce que j'appelle l'UR fasciste, c'est-à-dire le fascisme primitif et éternel. L'UR fascisme est toujours autour de nous, parfois en civil. Serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde. Je veux rouvrir Auschwitz. Hélas, la vie n'est pas aussi simple. L'UR fascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Notre devoir est de le démasquer, de montrer du doigt chacune de ses nouvelles formes, chaque jour, dans chaque partie du monde. Je cite Umberto Eco. Traduit de l'italien par Myriam Bouzel. Umberto Eco, né en 1932, mort le 19 février 2016, deux jours après la fête de la Révolution russe. Et la journée des femmes en Russie. Il a dû un peu trop célébrer cette fête. Commençons donc. Il faut savoir qu'Umberto Eco est aussi l'auteur du Nom de la Rose, un livre sur la destruction d'un monastère bibliothécaire ou bibliothécalique, d'un monastère bibliothécalique. Un monastère bibliothécalique. Un monastère avec une grande bibliothèque cachée qui est détruite par les moines qui veulent cacher le savoir du rire parce que le savoir du rire nuit à l'obéissance aveugle et à la religion. Pour bien comprendre l'obéissance aveugle à la religion, il faut lire l'opium du peuple de Karl Marx, qui parle de la religion comme de l'opium du peuple. Reconnaître le fascisme. Essai. Édition Bernard Grasset, Paris. L'édition originale de cet ouvrage a été publié par Bonpiani en 1997 sous le titre Cinque Scritti Morali. Cinque Scritti Morali. Commençons donc avec Umberto Eco. En 1942, à l'âge de 10 ans, j'ai remporté le premier prix au Ludi Juveniles, un concours libre à participation forcée pour jeunes fascistes italiens. Lisez, pour tous les jeunes italiens. J'avais brodé avec une magistrale rhétorique sur le sujet. Faut-il mourir pour la gloire de Mussolini, le destin immortel de l'Italie? Ma réponse était affirmative. J'étais un petit garçon très éveillé. Puis, en 1943, je découvris le sens du mot « liberté ». Je vous raconterai cette histoire à la fin de mon propos. À ce moment-là, liberté ne signifiait pas encore libération. J'ai passé deux de mes premières années en tristesse, fasciste et partisan qui se tirait dessus. Et j'ai appris à éviter les balles. Un exercice qui ne fut pas inutile. J'ai passé deux de mes premières années entre SS, fasciste et partisans qui se tiraient dessus. Et j'ai appris à y éviter les balles. Un exercice qui ne fut pas inutile. En avril 1945, les partisans prirent Milan. Deux jours plus tard, ils arrivèrent dans la petite ville où je vivais. Un grand moment de joie. La place principale était noire de monde. Tous chantaient, agitaient des drapeaux, scandaient en hurlant le nom de Mimmo, chef des partisans de la zone. Mimmo, ex-maréchal des carabiniers, s'était rangé aux côtés de Badoglio et avait perdu une jambe lors d'un des premiers accrochages. Pâle, appuyé sur des béquilles, il apparut au balcon de la mairie. D'une main, il demanda à la foule de se calmer. Moi, j'attendais son discours, puisque mon enfance avait été marquée par les grands discours historiques de Mussolini, dont nous apprenions par cœur à l'école les passages les plus significatifs. Silence! D'une voix rauque, presque inaudible, Mimmo parla. Citoyens, mes amis, après tant de douloureux sacrifices, nous y voici. Gloire à ceux qui sont tombés pour la liberté. Ce fut tout. Il retourna à l'intérieur. La foule criait. Les partisans levèrent leurs armes et tirèrent en l'air joyeusement. Nous, les enfants, nous précipitâmes pour récupérer les douilles, précieux objets de collection, mais je venais aussi d'apprendre que liberté de parole signifiait liberté quant à la rhétorique. Quelques jours après, je vis arriver les premiers soldats américains. Il s'agissait d'Afro-Américains. Mon premier Yankee était un noir. Il s'appelait Joseph et m'initiait aux merveilles de Zeke Tracy de l'île Abner. Ses bandes dessinées étaient en couleur et elles sentaient bon. La famille de deux de mes camarades de classe avait mis sa villa à la disposition de l'un des officiers, le major capitaine Moody. Je me sentais chez moi dans ce jardin où des femmes parlant un français approximatif faisaient cercle autour de lui. Le capitaine Moody avait fait des études supérieures et il connaissait un peu le français. Ainsi, ma première image de libérateur américain, après tant de visages pâles en chemise noire, fut celle d'un noir cultivé en uniforme vert jaune qui disait « Oui, merci beaucoup, madame. Moi aussi, j'aime le champagne. Malheureusement, du champagne, il n'y en avait pas. Mais le capitaine me dit, marqué mon premier chewing-gum et je me mis à mâchouiller toute la sainte journée. La nuit, je le mettais dans un verre d'eau afin de le garder au frais pour le lendemain. Ah, mais nous sûmes que la guerre était finie. La paix me fit un drôle d'effet. La guerre permanente était, m'avait-on dit, la condition normale pour un jeune Italien. Les mois suivants, je découvris que la résistance n'était pas un phénomène local, mais européen. J'appris des noms nouveaux et excitants comme Rizzo, Maquis, Armée secrète, Rothkappel, Ghetto de Varsovie. Je vis les premières photographies de l'Holocauste et ont compris la signification avant que d'en connaître le mot. Je me rendis compte que nous avions été libérés. En Italie, il se trouve aujourd'hui des gens qui se demandent si la résistance a eu un impact militaire réel sur le cours de la guerre. Pour ma génération, la question est nulle et non revenue. Nous avons tout de suite compris la signification morale et psychologique de la résistance. Nous tirions orgueil, nous, Européens, de ne pas avoir attendu passivement la libération. Il me semble que pour les jeunes Américains nous venus verser leur tribut de sang à notre liberté, il n'était pas négligeable de savoir que, derrière les lignes, des Européens payaient déjà leurs dettes. En Italie, il se trouve quelqu'un pour affirmer aujourd'hui que le mythe de la résistance est un mensonge communiste. Certes, les communistes ont exploité la résistance comme une propriété personnelle. Faux! Puisqu'ils y ont joué un rôle prépondérant. Mais moi,
J'ai le souvenir de partisans portant des foulards de couleurs différentes. L'oreille collée à la radio, les fenêtres fermées et le blackout général faisant de l'espace exigu autour de l'appareil le seul halo lumineux. Je passais mes nuits à écouter les messages de radio Londres aux partisans, à la fois obscurs et poétiques. Le soleil se lève encore. Les roses fleuriront. La majeure partie d'entre eux s'adressait à ceux de Frenchy. On me susurra que Frenchy était le chef d'un des groupes clandestins les plus puissants de l'Italie du Nord. Un homme au courage légendaire. Frenchy devint mon héros. Frenchy, et Guardo Sogno de son vrai nom, était un monarchiste, tellement anticommuniste qu'après la guerre, il rejoignait un groupe d'extrême droite et fut même accusé d'avoir collaboré à une tentative de coup d'État réactionnel. Mais qu'importe, Sogno restera toujours Sogno, le rêve de mon enfance. La libération fut l'entreprise commune de gens de couleurs différentes. C'est bien parce qu'Umberto Eco aime Sogno qu'il n'aime pas les communistes. La monarchie italienne, elle n'a même pas résisté à la prise de pouvoir de Mussolini. Pas une goutte de sang a été servie contre la marche sur Rome. Je gueule tellement fort que j'ai de la cire d'oreille qui me coule. En Italie, il se trouve quelqu'un pour dire aujourd'hui que la guerre de la libération fut une tragique période de division et que nous avons maintenant besoin d'une réconciliation nationale. Le souvenir de ces terribles années devrait être refoulé. Seulement voilà, le refoulement est source de névrose. Ces réconciliations... Si réconciliation signifie compassion et respect pour ceux qui ont livré leur guerre de bonne foi, pardonner ne signifie pas oublier. Je pourrais même admettre qu'Eichmann croyait sincèrement en sa mission, mais je ne me vois pas en train d'affirmer « Hoc, reviens, recommence ». Nous sommes là pour rappeler ce qui s'est passé et déclarer solennellement qu'ils ne doivent pas recommencer. Mais qui ils? Si l'on se réfère au gouvernement totalitaire ayant dominé l'Europe avant la Seconde Guerre mondiale, on peut affirmer sans crainte qu'il serait difficile de les voir revenir sous la même forme dans des circonstances historiques différentes. Si le fascisme de Mussolini se fondait sur l'idée d'un chef charismatique, leur corporatisme, l'utopie du destin fatal d'homme, sur une volonté impérialiste de conquérir de nouvelles terres, sur un nationalisme exacerbé, sur l'idéal de toute une nation embrigadée en chemise noire, sur le refus de la démocratie parlementaire et l'antisémitisme. Alors, je n'ai aucun mal à admettre que Alleanza Nazionale, issue du MSI, mouvement social italien, est certainement un parti de droite, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'ancien fasciste. Pour des raisons identiques, même si je suis préoccupé par les divers mouvements pro-nazis et actifs, ça et là en Europe, Russie comprise. Je ne pense pas que le nazisme, sous sa forme originale, soit en passe de renaître en tant que mouvement capable d'impliquer une nation entière. Toutefois, même si l'on peut renverser les régimes politiques, critiquer les idéologies et leur dénier toute légitimité, on trouve toujours, derrière un régime et son idéologie, une façon de penser et de sentir, une série d'habitudes culturelles, une nébuleuse d'instincts obscurs et de pulsions insondables. Un autre aspect entrerait-il donc l'Europe, sans parler des autres parties du monde? Les paroles seules comptent. Le reste n'est que bavardage, a dit un jour Ionesco. Les habitudes linguistiques sont souvent des symptômes essentiels de sentiments inexprimés. Permettez-moi donc de poser une question. Pourquoi a-t-on défini non seulement la résistance, mais aussi l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale comme une lutte contre le fascisme? Si vous relisez « Pour qui sonne le glas d'Hemingway », Vous verrez que Robert Jordan identifie ses ennemis comme des fascistes, même lorsqu'il pense aux phalangistes espagnols. Si vous le voulez bien, je laisse la parole à F.D. Roosevelt. La victoire du peuple américain et de ses alliés sera une victoire contre le fascisme et l'impasse du despotisme qu'il représente. 23 septembre 1944. Sous le macartisme, les Américains ayant participé à la guerre civile espagnole étaient appelés des antifascistes prématurés. Lisez que combattre Hitler dans les années 40 était un devoir moral pour tout bon Américain, tandis que combattre Franco trop tôt dans les années 30 était suspect. Pourquoi les radicaux américains employaient-ils une expression comme « fascist pig » pour désigner un policier désapprouvant ce qu'il fumait? Pourquoi ne disaient-ils pas « sale cagoulard », « sale phalangiste », « sale oustachi », « sale quisling », « sale entrepavilich », « sale nazi » Mein Kampf constitue le manifeste complet d'un programme politique. Le nazisme avait une théorie du racisme et de l'arianisme, une notion précise de l'Undertätigkeit, l'art corrompu, une philosophie de la volonté de puissance. Le nazi avait une philosophie de l'art corrompu, une philosophie de la volonté de puissance et de l'Übermensch. Il était résolument anti-chrétien et néo-païen, tout comme le Diamant, la version officielle du marxisme soviétique. De Staline était clairement matérialiste et athée. Si par totalitarisme, on entend un régime qui subordonne tout acte individuel à l'État et son idéologie, alors nazisme et stalinisme étaient des régimes totalitaires. Sauf que Staline a vaincu Hitler et que Staline est l'héritier de Lénine. Ce que le raconteur du livre dit, moi, Frédéric Ombriaco, qui n'aime pas comparer Hitler et Staline, parce que Staline n'était pas complètement débile comme Hitler, parce que Staline n'était pas complètement débile comme Hitler, parce que Staline n'était pas complètement débile comme Hitler, parce que Staline n'était pas complètement débile comme Hitler, mais que je ne suis pas stalinien, moi, Frédéric Ombriaco. Moi, j'en veux à Staline pour la mort de Trotsky. Il ne fait aucun doute que le fascisme était une dictature, mais il n'était pas complètement totalitaire. Non point à cause d'une sorte de tiédeur, mais en raison de la faiblesse philosophique de son idéologie. Contrairement à ce que l'on pense en général, le fascisme italien n'avait pas une philosophie propre. L'article sur le fascisme, signé par Mussolini dans l'encyclopédie très connue, fut écrit ou inspiré par son fondement par Giovanni Gentile. Mais il reflétait une notion hégélienne tardive de l'état éthique et absolu que Mussolini ne réalisa jamais totalement. Mussolini n'avait aucune philosophie, il n'avait qu'une rhétorique. Il commença comme athée militant pour finir par signer le concordat avec l'Église et accueillir à rouvrir les évêques qui bénissaient les insignes fascistes. Une légende plus lui raconte que, lors de ses débuts dans l'anticléricalisme, il aurait demandé un jour à Dieu de le foudroyer sur place pour lui prouver son existence. De toute évidence, Dieu était distrait. De toute évidence, Dieu était distrait. Parce que Mussolini, il aurait demandé un jour à Dieu de le foudroyer sur place pour lui prouver son existence. De toute évidence, Dieu était distrait. Plus tard dans ses discours, Mussolini ne manquait jamais de citer le nom de Dieu et ne dédaignait pas de se faire appeler l'homme de la Providence. Certes, le fascisme italien fut la première dictature de droite ayant dominé un pays européen. Et le régime mussolinien offrit ensuite à tous les mouvements analogues une sorte d'archétype commun. Le fascisme italien fut le premier à créer une liturgie militaire, un folklore, voire un mode vestimentaire, laquelle eut plus de succès à l'étranger qu'Armani. Benetton au Versace. C'est seulement dans les années 30 que des mouvements fascistes firent leur première apparition en Angleterre. Avec Mosley, et en Lettonie, Estonie, Lituanie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Yougoslavie, Espagne, au Portugal, en Norvège et même en Amérique du Sud, sans parler de l'Allemagne. C'est le fascisme italien qui a convaincu les leaders libéraux européens que le nouveau régime mettait en œuvre des réformes sociales intéressantes, capables d'offrir une alternative modérément révolutionnaire à la menace communiste. Cela dit, la primauté historique ne suffit pas, selon moi, à expliquer que le mot « fascisme » est devenu une synecdoque. Une synecdoque. La dénomination par pro-toto de mouvements totalitaires différents. Inutile de répondre que le fascisme contenait en soi tous les éléments des totalitarismes successifs, qu'il était une manière de quintessence. Au contraire, la quintessence, le fascisme n'en possédait aucun, et même pas une simple essence. Le fascisme était un totalitarisme fausse. Le fascisme n'avait rien d'une idéologie monolithique. C'était un collage de diverses idées politiques et philosophiques, fourmillant de contradictions. Peut-on concevoir un mouvement totalitaire qui réunisse la monarchie et la révolution, l'armée royale et la milice personnelle de Mussolini, les privilèges accordés à l'Église, une éducation étatique exaltant la violence, le contrôle absolu par l'État et, le libre marché. Le parti fasciste était né en proclamant son nouvel ordre révolutionnaire, mais il tirait son financement de propriétaires terriens ultra-conservateurs qui attendaient une contre-révolution. Le fascisme des débuts était républicain et il a survécu pendant 20 ans en proclamant sa loyauté envers la famille royale, en permettant un duché d'aller de l'avant. Bras dessus, avec un roi auquel il offrit même le titre d'empereur. Lorsqu'en 1943, le roi congédia Mussolini, le parti réapparut 2 mois plus tard avec l'aide des Allemands, sous le drapeau d'une république sociale, recyclant son ancienne répartition révolutionnaire, enrichie d'accents presque jacobins. Il y eut une seule architecture nazie et un seul art nazi. Si l'architecte du nazisme était Albert Speer, il ne pouvait y avoir de place pour Mies van der Rohe. De la même façon, sous Staline, si Lamarck avait raison, Darwin ne pouvait exister. En revanche, s'il y eut des architectes fascistes, on vit s'élever aux côtés de leur pseudo-colisée des édifices inspirés de rationalisme moderne de Gropius. Il n'y eut pas un Janov fasciste. L'Italie avait 2 grands prix artistiques. Le prix Cremona, contrôlé par un fasciste inculte et fanatique, Farinacci, qui soutenait un art propagandiste. Je me souviens de tableau intitulé « En écoutant la radio, un discours du Duce » ou « État manteau créé par le fascisme ». Et le prix Bergamo, sponsorisé par un fasciste cultivé et raisonnablement tolérant, Botteghi, lequel protégeait l'art pour l'art et les expériences de l'art avant-gardiste que l'Allemagne avait banni parce que corrompu, crypto-communiste. Contraire au Kirchnebelugien, le seul ennemi, D'Annunzio était le poète national, un dandy que l'Allemagne ou la Russie auraient envoyé devant un peloton d'exécution. D'Annunzio, le brave Gabriele D'Annunzio, victorieux de Trieste, le grand Gabriele D'Annunzio, Frédéric Umbriaco cite-t-il, le grand Gabriele D'Annunzio, victorieux de Trieste. D'Annunzio, dit Eco. D'Annunzio était le poète national, un dandy que l'Allemagne ou la Russie auraient envoyé devant un peloton d'exécution. Il fut élevé au rang de chantre du régime pour son nationalisme, son culte de l'héroïsme, matiné de fortes doses de décadentisme français. Prenons le futurisme. Il aurait dû être considéré comme un exemple d'antarthétikunst, au même titre que l'expressionnisme, le cubisme et le surréalisme. Mais les premiers futuristes italiens étaient nationalistes. Ils encouragèrent pour des raisons esthétiques la participation italienne à la Première Guerre mondiale. Ils célébrèrent la vitesse, la violence, le risque. Et, d'une certaine manière, ces aspects apparurent proches du culte fasciste de la jeunesse. Au moment où le fascisme s'identifiait à l'Empire romain, il redécouvrait les traditions rurales. Marinetti, qui proclamait une automobile plus belle que la victoire de Samothrace et voulait résolument tuer le clair de lune, fut nommé membre de l'Académie d'Italie, laquelle traitait le clair de lune avec le plus grand respect. Mais un futur partisan et un futur intellectuel du Parti communiste firent leur éducation au sein de GUF. L'association fasciste des universités qui attendait être le berceau de la nouvelle culture fasciste. Or, ces clubs devinrent une sorte de creuset intellectuel où les idées nouvelles circulaient sans aucun contrôle idéologique réel. Non tant grâce à la tolérance des hommes du parti, mais plutôt parce que peu d'entre eux possédaient les moyens intellectuels de les contrôler. Durant ces 20 années, l'hermétisme s'opposa en réaction au style pompeux du régime. On laissa les poètes. Durant ces 20 années, l'hermétisme se posant en réaction au style pompeux du régime, on laissa les poètes élaborer leurs protestations littéraires. Dans leur tour d'ivoire, la perception des hermétiques était diamétralement opposée au culte fasciste de l'optimisme et de l'héroïsme. Le régime tolérait cette dissension patente, même si socialement imperceptible. Or, il ne prêtait pas une attention suffisante à un jargon aussi mystérieux. Cela ne signifie pas que le fascisme italien était tolérant. Gramsci fut jeté en prison jusqu'à sa mort. Matteotti et les frères Rosselli furent assassinés. La liberté de la presse supprimée. Les syndicats démantelés. Les dissidents politiques relégués sur des îles lointaines. Le pouvoir législatif devint une pure fiction. L'exécutif, qui contrôlait le pouvoir judiciaire et les médias, promulguait directement les nouvelles lois, parmi lesquelles celle de la défense de la race, appui formel italien à l'Holocauste. Non, l'image incohérente que je viens de décrire ne devait rien à la tolérance. C'était un exemple de désarticulation politique idéologique. Cela dit, il s'agissait d'une désarticulation donnée. D'une confusion structurée. Le fascisme était philosophiquement disloqué, mais d'un point de vue émotif, il était fermement chassé dans certains archétypes. Et j'en arrive au deuxième point de ma thèse. Il y eut un seul nazisme, et l'on ne peut nommer nazisme le phalangisme hyper-catholique de Franco, puisque le nazisme est fondamentalement païen, polythéiste et antichrétien. Sinon, ce n'est pas du nazisme. Si ce n'est pas fondamentalement païen, polythéiste et antichrétien, ce n'est pas du nazisme. Au contraire, on peut jouer au fascisme de mille façons, sans que jamais le nom du jeu change. La notion de fascisme connaît ce que, selon Wittgenstein, connaît la notion de jeu. Un jeu peut être ou ne pas être une compétition. Il peut impliquer une ou plusieurs personnes. Il peut requérir quelques habiletés particulières ou bien aucune. Il peut être l'enjeu de sommes d'argent ou pas. Les jeux sont une série d'activités diverses qui témoignent seulement d'un quelconque air de famille. 1. ABC. 2. BCD. 3. CDE. 4. DEF. Supposons qu'il existe une série de groupes politiques. Le groupe 1 est caractérisé par les aspects ABC. Le groupe 2 par BCD. Et ainsi de suite. 3 CDE, 4 DEF. 2 BCD est semblable à 1 ABC en tant qu'ils ont deux aspects en commun. 3 est semblable à 2 3, CDE, est semblable à 2, BCD, et 4 est semblable à 3 pour la même raison. Notons que 3 est aussi semblable à 1. Ils ont en commun l'aspect C. Le cas le plus curieux, c'est 4, évidemment semblable à 3 et 2, mais sans aucune caractéristique commune avec 1 toutefois, en raison de la série ininterrompue de similarités décroissantes entre 1 et 4, il subsiste par une sorte de transitivité illusoire, un air de famille entre 4 et 1. Mais cela, il faut. Le communisme et le nazisme ne se ressemblent pas, excepté que les nazismes ont volé des termes aux communistes. Prenons une pause avec Beethoven, parce que je déparle et je n'ai plus de Céline. Beethoven. Russian Leszczyk Komarochka. Russian Ekrechenki. Russian Kaposhi Nashi Padruchki. Russian Shomika. Swedish Lulebi. Lila Karl Sov Sot Ifri. Swiss Ann Bergribin Jessel. Spanish Bolero a solo, Una Paloma Blanca, Tirania Española, La Tirana Siemberka, Hungarian Rapid Picking Song, El Esquino Embrequez, Italian Canzonetta Venezia, Veneziana da Rave Catina, Renate Kranel, Soprano, Ingeborg Springer, Alto, Eberhard Bortner, Tenor, Gunther Lieb, Bariton, Eva Ander, piano, Renat Ulbricht, viol, Joachim Bischoff, violoncello, Deutsche Grammophon. Finissons de boire la bière et remplissons-nous une pipe au son de Beethoven, notre ami Beethoven. Auteur très intrigant, Bertolt Brecht. Néanmoins, il reste un peu nationaliste. Ce n'est pas un vrai communiste, mais un partisan de la révolution, un partisan de la libération. Mais il faut bien voir que monsieur traite Staline de totalitaire et que le totalitarisme n'a jamais existé. Parce qu'aucun pays de 250 millions de personnes, ou plutôt à cette époque, de 140 millions et quelques, n'a pu être l'œuvre d'un seul homme. Mais il est l'œuvre de tout un parti, de tout un gouvernement, de douma d'État et de municipalité. L'œuvre de tout un pays n'est point l'œuvre de tout un homme. Le culte de la personnalité est médiatique. Le totalitarisme est de terme médiatique. Et je crois que le maréchal Tito n'était pas un dictateur parce que c'est le chef de la résistance, un anti-nazi convaincu, un chef d'État fort.
Moi, je dis, si la Babouchka est heureuse, le pays va bien. Slogan de Vladimir Poutine. Et comment la babouchka est heureuse? En ne manquant pas de nourriture, en ayant une pension équitable, en ayant des droits contre l'éviction de son logement, en ayant des groupes sociaux où elle peut aller socialiser, jouer à des petits jeux, regarder des films d'époque, écouter de la musique traditionnelle, aller à l'église, avoir une bonne place à l'église et avoir la bénédiction du prêtre orthodoxe. Je ne suis pas un orthodoxe, mais c'est ainsi que cela fonctionne en Russie, avec la bénédiction des prêtres orthodoxes. Je ne considère pas Vladimir Poutine comme un fasciste, ni un dictateur. Vladimir Poutine défend le peuple russe et l'équilibre du pouvoir. Oh, diable pour l'Ukraine qui est infestée de nazis. Je pense à l'Ukraine comme les républicains pensaient à la Vendée. La gaffe. Vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps dans la première partie, je vais fermer Beethoven et vous entonner l'international. Chantons l'international à la mémoire de tous les camarades du Parti communiste et de l'international socialiste. Mort au combat contre Mussolini. Contre Franco, contre Hitler, contre le Tsar, contre Chiang Kai-shek, contre l'envahisseur japonais. Contre Batista. L'international socialiste par Eugène Potier.
Notez qu'une version nulle multilingue est disponible sur le web de l'international, fait par une université chinoise avec un vidéoclip, avec de la guitare, des chants différents, en multilingue. Une vidéo qui sonne l'espoir de la jeunesse libre. Les universités chinoises sont au sommet de la réussite mondiale. La Chine, première puissance du monde. République populaire de Chine. Chef de file du communisme. Et le communisme et l'international socialiste sont les plus grandes marées humaines de cette terre. Et la plus grande force de frappe, la plus grande force de sagesse, la plus grande force morale. Il s'agit de la première puissance mondiale, c'est le communisme, parce que l'international est le genre humain. Debout les damnés de la terre, debout les forces de la faim, la raison dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisant table grasse, vous l'esclave debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout, c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. Pour que le voleur en dégorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale. Groupons-nous dès demain. L'international sera le genre humain. Il n'y a ni sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteur, sauvons-nous nous-mêmes. Si l'un de ces jours, les corbeaux de nos chairs se repaissent, le soleil brillera toujours. Je tiens à souligner la mémoire de Jean Moulin, chef de la résistance, mort pour celle-ci, sous la torture nazie. sans avoir parlé. Qu'en fassiez-vous tant? Nous vous reviendrons après quelques musiques.
Ici Frédéric Umbriaco. Théâtre hérétique sur la religion onirique. Avec comme musique d'arrière-plan Mortel Feldman. Piano, violon, viola, cello. En 1987, qu'est-ce que la religion onirique? Est-elle la religion moderne du renouveau qui englobera tout ceci pour n'en faire qu'une? La vérité de tous les peuples asiatiques? Nos pouvoirs psychiques anciens? Un pouvoir hérité des moines tibétains. Non. Je n'attaque point. Le peuple juif me prétendant de la race aryenne, je m'allie aux juifs avec ceux qui se reproduisent avec les animaux pour vaincre la race aryenne et la dictature d'Hitler. Hindenburg avait tort de donner le pouvoir à Hitler. Mais à ce moment-là, la religion des rêves n'existait pas. Il y avait des gourous du rêve en Asie. Mais ceux-là me sont inconnus. Sommes-nous vraiment dans notre espace terrestre physique, dans un monde où l'ancien ministre de la Défense canadienne clame à Ushiatoudé l'existence d'extraterrestres? Voyons donc. Je ne suis point un homme descendant d'un sus s'étant reproduit avec des animaux. Les seuls s'ayant reproduit avec les animaux, ce sont les ancêtres des Néandertaliens, qui se sont reproduits avec des races d'hommes singes inférieurs. Peut-être le Néandertalien pouvait-il se reproduire avec des races d'hommes singes inférieurs. Et après, l'on dit demain des humains qui se reproduisent avec les Néandertals. Et après, des hommes civilisés qui se reproduisent avec les barbares ou les tribus poilus, néophytes, arbre maturé d'ossements. Nos pouvoirs psychiques, je n'en sais rien et je ne veux rien savoir. Je ne suis pas un adepte de la mythologie germanique arienne. Je ne m'appelle pas Guido von List et le méprise. Formateur de tous les mots oniriques d'un peuple par la subversion des messages subliminaux, une technologie proscrite. L'affaire Brunswick, la fiction, c'est réaliste, mais bon, douteuse. Il y avait un livre pour enfants dont j'ai oublié le nom.
Allô, moto?
Excusez-moi, retour au théâtre hérétique des rêves. Dans la religion des rêves. J'étais interrompu par le téléphone. Je parlais de l'affaire Brunswick, qui avait fait sensation à l'époque. Scandale. Les messages subliminaux pour l'achat d'un matériel domestique. Il s'agit d'une fraude. Il y avait un livre que j'ai lu, je crois, au primaire ou au début de mon secondaire, qui expliquait les mêmes choses avec, dans un laboratoire, des tests sur les rats.